Au NRV La Suite ce soir, au programme Procréation médicale assistée. Mais avant de commencer le débat, petit tour de table pour des essais micro et pour caler les voix de chacun et de chacune. Je commence par vous, Arthur Kermal-Vezen, vous êtes né sous PMA et auteur de Le Fils, c'est paru aux éditions L'Iconoclaste. Je rajoute quelque chose?
Alors je suis conçu par PMA.
Et pas né sous PMA, d'accord.
Ouais. Parce que ça fait référence au nez sous X. Non, c'est vraiment une problématique conçu. Très différente.
Tout à fait. Irène Théry, vous êtes sociologue de la famille.
Oui.
Voilà. Alexandre Hurwitz, vous êtes président de l'association des familles homoparentales.
Oui, Hurwitz.
Hurwitz. Et Jean-Louis Touraine, vous êtes député de La République En Marche du Rhône, partisan de l'extension des techniques de procréation.
Tout à fait.
Alors, les présentations sont à peu près adéquates. Générique.
Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir, ou alors bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour ce dernier énervé de la saison. Avant de se retrouver, je donne tout de suite la date, le 26 août. Pour cette dernière, on a voulu débattre de l'extension de procréation médicalement assistée contenue dans la loi bioéthique, une loi qui sera soumise au vote des parlementaires fin septembre. Oui, fin septembre, mais le débat a déjà commencé. Le projet de loi est prêt, il sera adopté en Conseil des ministres fin juillet. C'est l'aboutissement véritablement d'un long processus commencé en janvier 2018 avec, on s'en souvient, les états généraux de la bioéthique. Pour autant, le vote de cette loi ne s'annonce pas facile. Le risque, par exemple, un des risques, ce serait le réveil possible d'une nouvelle opposition type mariage pour tous. Alors, qu'est-ce que ce projet propose concrètement? Quelles questions soulève-t-il? Qu'est-ce qui va changer, notamment en particulier, dans l'accès aux origines pour les enfants issus de procréation médicalement assistée? PMA, même pas peur, ça c'était votre titre.
C'est joli, non? C'est un peu poétique.
Ouais. Le mien, vous ne l'avez pas aimé?
Le vôtre est très fort.
Il était fort. PMA, consonne, voyelle. Le compte est bon, c'est le sujet du dernier.
Les chiffres et des lettres.
Oui, on a toujours
une belle référence.
Mais ça continue, vous savez.
Bien sûr. Ah bon?
Oui, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Christophe Boursaillet.
Écoutez Laurent, pour moi la question de la procréation médicalement assistée n'est ni juridique ni politique. Le vrai problème, c'est la souffrance de quelqu'un, homme ou femme, qui pour diverses raisons ne peut pas procréer. Si les progrès de la science permettent aujourd'hui de surmonter cet obstacle, pourquoi pas? Mais le bonheur des parents n'est qu'un élément du schmilblick. Et là, vous notez que j'emploie un mot que très peu de gens peuvent comprendre aujourd'hui, le schmilblick. C'est donc un élément du schmilblick. Il faut aussi tenir compte de l'enfant à venir. En lisant le livre d'Arthur Kermal-Vezen, très beau livre, je précise, Le Fils, une quête véritablement, dans laquelle donc il raconte sa quête pour retrouver celui à qui il doit la vie, je songeais, Laurent, à Jean Genet, cet orphelin qui, toute sa vie, a cherché, lui, sa mère. À bien des égards, les enfants des sans-pères ne se trouvent-ils pas comme Jean Genet, amputés d'une part d'éternité? C'est un peu poète. Voici qu'une loi déboule qui va satisfaire nombre de futurs parents. Il leur faudra toutefois gérer la question délicate des origines. Jean-Louis Touraine, vous avez épaulé et porté ce projet de loi. Qu'est-ce qui change précisément à l'automne?
Eh bien, tout d'abord, l'extension de la PMA, on va dire que c'est la partie émergée de l'iceberg, ça ne résume pas du tout la loi, mais c'est la partie la plus visible, qui a été la plus médiatisée. De fait, en pratique, déjà, la PMA s'était étendue au-delà même du texte de loi précédent. Le texte de loi précédent permettait de recourir à ce moyen d'aide médicale à la procréation chaque fois que l'homme ou la femme, désirant avoir un enfant, était stérile médicalement. Ou lorsqu'une maladie génétique très grave, transmissible, était présente dans cette famille et pour éviter que cette maladie ne survienne. Et en réalité, en pratique, depuis longtemps, dans la plupart des centres français, chaque fois qu'un couple n'a pas d'enfant, un couple homme-femme, j'entends, n'a pas d'enfant, eh bien il peut solliciter une PMA dans des conditions d'âge et de modalités qui sont...
C'est déjà le cas. Donc, voilà.
Mais c'est déjà le cas. Par contre, ce n'était pas accessible jusqu'à maintenant aux couples de femmes homosexuelles ou aux femmes seules. Et donc, demain, et je ne pense pas qu'on ait aucune incertitude sur le vote de la loi, il y aura probablement quelques manifestations ici ou là, mais dans l'hémicycle, je peux vous dire qu'il y a une telle majorité de députés favorables à cette évolution, à cette avancée, que je ne doute guère que ce sera voté. Donc, Demain, après que la loi ait été votée, les couples de femmes et les femmes seules pourront solliciter la PMA autant que les couples hétérosexuels qui n'ont pas eu d'enfants dans les conditions naturelles.
Mais finalement, dans ce que vous racontez, Jean-Louis Touraine, il n'y a rien de bien scandaleux. Irène Théry, comment vous expliquez cette ce mouvement de colère, on pourrait dire, contre ce projet de loi, dès le printemps, dès maintenant?
Il y a pas, enfin, le mouvement de colère, il était attendu. De toute façon, il faut savoir que c'est un mouvement de colère très circonscrit. C'est-à-dire, vous pensez à la manif pour tous.
Non, je pense à ce qui se passe. Je voyais les débats, les passions qu'il y a aujourd'hui autour de ce projet de loi, alors que ça ne vient qu'à l'automne.
Non, je pense pas qu'il y ait tellement de passions. Ce qui me frappe, au contraire, et tous les sondages qu'on a vont dans ce sens. C'est un accord très profond de la société. Par exemple, vous avez évoqué l'accès aux origines. Un sondage récemment est paru, 75% des Français sont pour l'accès aux origines. Donc je dirais qu'il y a une société qui est tout à fait en accord avec l'évolution qui se dessine, non seulement pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, mais également sur ce qui me paraît le fond de l'affaire, c'est-à-dire le fait de enfin donner une place aux familles issues d'un don en général, qui jusqu'à présent étaient organisées mais étaient toujours dissimulées, maquillées en procréation du couple receveur du don, etc. Donc le grand enjeu pour tous au-delà de cette ouverture sera ça.
Vous dites jusqu'ici on faisait passer les parents pour des géniteurs en effaçant le nom du donneur.
Voilà, ça c'était dans votre tribune, ouais.
Et donc, puisque vous m'interrogiez sur les opposants, le point important à savoir... Alors
vous avez dit qu'une nouvelle valeur s'imposait, le respect des droits de l'enfant.
Bien sûr, donc... J'essaye de finir ma phrase.
Donc
vous m'interrogez sur les opposants. Ils sont peu nombreux, ils sont déterminés, ils sont opposés à l'homoparenté en général. Ils n'ont jamais accepté la loi de 2013, c'est le premier point. Alors que c'est notre droit commun, c'est notre droit civil. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont opposés aux dons. Ils ont demandé, la Manif pour tous a demandé au monde des États généraux de la bioéthique, l'interdiction du don de sperme pour tous. Donc, on va avoir deux débats pour un. On va de nouveau avoir un débat sur l'homoparenté, mais je pense, comme Jean-Louis Touraine l'a dit, ce débat, il est déjà tranché. Et puis, on va avoir un autre débat. Est-ce qu'on est opposé au don? Ou est-ce que, comme nous, ici, nous sommes favorables au don? Et non seulement favorables, mais pour que la société intègre ces familles, les accepte, les accueille dans son droit, dans ses mœurs, arrête de les planquer. Voilà.
Alexandre Hurwitz, comment vous regardez le débat qui s'annonce pour septembre et qui a déjà été amorcé?
Je dirais qu'on a l'avantage en 2019 et en 2020 de connaître les arguments qui sont proposés contre l'extension de la PMA, puisqu'on les a déjà eus lors des débats du mariage pour tous. Et puis pour les plus anciens, on les avait déjà d'ailleurs entendus lors du PACS. Et puis même si encore on remonte encore plus loin dans le temps, lorsqu'en 81 on a dépénalisé l'homosexualité, on avait déjà eu aussi certaines remarques qu'on entend encore en 2019. Donc c'est pour vous dire que le conservatisme a des racines qui sont très puissantes, qui sont très profondes, et que le fruit de ce conservatisme fait souvent ça et là des décennies réapparaître ces positions qui effectivement aujourd'hui peuvent être qualifiées d'homophobes lorsqu'elles consistent à refuser l'extension et le bénéfice, je dirais, de la science procréative au seul regard de l'orientation sexuelle. C'est comme si dans la loi, il y a plusieurs critères de discrimination. Vous savez, il y a la race, la prétendue race, l'origine, l'ethnie, etc. Ben voilà, c'est comme si d'un seul coup, on interdisait à certaines femmes au regard de leur couleur ou au regard de leur nom de famille ou de la rue où elles habitent, finalement, de ne pas accéder au geste scientifique. Et ben aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir... De quel droit on pourrait encore refuser qu'une femme, parce qu'elle, allez, parlons d'une manière sympathique, fait des bisous à sa copine le matin, n'aurait pas le droit d'aller elle aussi bénéficier d'un don de sperme, comme cette femme qui est hétérosexuelle et qui a un mari qui est stérile a le droit aujourd'hui. Voilà la question. Elle est simplement d'étendre quelque chose qui existe.
Il y a aussi des opposants qui, eux, font valoir un argument scientifique en disant il y a une course effrénée de la science, on ne sait pas où on va. Et là, je voudrais juste vous citer Jacques Attali dans l'Express le 19 juin. Jacques Attali qui dit la course effrénée, il parle de la PMA, et il dit la course effrénée vers plus de liberté individuelle conduit à transformer l'humanité et la vie en général en artefacts, en objets. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi d'aller trop loin, enfin je me fais l'avocat du diable, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller trop loin dans ces démarches, Jean-Louis Touraine?
On ne va pas trop loin en l'occurrence, nous sommes précédés par tous les pays qui ont légiféré sur ces questions il y a 15-20 ans, parfois davantage. Donc nous ne sommes pas du tout des pionniers, précurseurs. Et on connaît toutes les conséquences. Et j'ai entendu, comme la plupart, l'argument de certains opposants qui disent « mais vous allez faciliter, favoriser le fait que des enfants puissent naître sans père ». Et la question peut mériter d'être posée.
Absolument.
Oui, est-ce que ça va leur créer un problème ? Et donc je crois qu'il faut aborder cela avec rigueur, avec esprit scientifique. Les sciences humaines et sociales nous donnent la réponse. Plus d'une douzaine d'études ont été conduites dans les pays qui nous ont précédés. Pas une seule étude montre que les enfants nés de PMA dans un couple homosexuel ou chez une femme seule, que ces enfants ont un inconvénient quelconque, en quoi que ce soit, par rapport à ceux qui sont nés de PMA dans les couples hétérosexuels. Et si on les prend tous ensemble, tous ceux nés de PMA, ils vont plutôt mieux que les autres enfants, statistiquement, parce que ils ont été tellement attendus, espérés, aimés, qu'au bout du compte, l'investissement des parents est très fort. Et je crois que c'est là où est la modification peut-être la plus importante au-delà de la technique. C'est que nous sommes en train d'évoluer vers un monde qui comprend qu'être parent, plus encore que de la biologie, être parent, c'est un engagement, c'est un don d'amour, et c'est accepter de dire que jusqu'à la majorité, et bien souvent au-delà, on s'engage fortement à pourvoir à toutes les nécessités, à tout le soutien, à toute l'affection dont les jeunes auront besoin.
J'imagine que vous confirmez, Arthur Kermal-Vézen, qui est conçu et non pas né sous, il va falloir changer les éléments de langage, hein, monsieur Touraine, conçu sous PMA.
Oui, c'est clair que comme j'ai toujours su comment j'avais été conçu, ça fait 36 ans que je regarde ces questions et je suis parfois extrêmement surpris des résistances qui sont manifestées, puisque en 94, lors de la première loi de bioéthique, on n'a jamais entendu qui que ce soit se plaindre et qu'évidemment, tous les mouvements réactionnaires qu'on entend maintenant cachent quand même un courant de fond qui est homophobe, puisque la question de fond, c'est d'élargir la PMA qui existe depuis 50 ans.
Au couple homosexuel, en effet.
Voilà, au couple de même sexe.
Vous êtes né d'un couple hétérosexuel.
Exactement. Donc, moi, j'ai été conçu dans une famille hétérosexuelle par PMA, parce que mon père est stérile, pas était stérile, il est toujours stérile, et ils ont dû recourir à la graine d'un monsieur généreux pour que leurs enfants soient là. Et si vous voulez, aujourd'hui, le sens de ma démarche, parce que moi, j'ai réussi à retrouver mon donneur
vous
avec un test
premier,
ADN.
Vous êtes le premier en France à avoir pu retrouver votre donneur.
Je suis le premier à l'avoir dit. Mais bon, j'accepte. Et donc, effectivement, en faisant un test ADN, j'ai retrouvé l'identité de mon donneur en 12 heures. Et si vous voulez, que les gens comprennent bien, la PMA, c'est une solidarité absolument magnifique. Pour moi, c'est la solidarité suprême. Ce que je ne comprenais pas depuis tout petit, c'est que le fait d'être privé de la connaissance de mon donneur, c'est que finalement, moi-même, je suis privé de cette solidarité. Je ne peux pas rendre ce que j'ai reçu. Il se trouve que quand j'ai rencontré mon donneur, j'ai pu lui dire merci. J'ai pu faire preuve de gratitude. Je peux, bref, moi aussi, je peux être là s'il a besoin de moi. Bref, cette chaîne, du coup, maintenant n'est plus brisée pour moi.
Vous le considérez comme un autre père ou pas du tout ?
Non, enfin bon.
Vous déjà, dites, si vous dites, il y a mon père et mon donneur.
J'ai un père, une mère et un donneur. Oui. Voilà. Moi, mon donneur, il s'appelle Gérard. Donc, je l'appelle Gérard. Je dis pas bonjour donneur. Vous imaginez bien. Il se trouve que quand j'en parle à mes enfants, je dis que c'est mon donneur. D'ailleurs, quand je parle à mes enfants, ils sont persuadés que tous les autres ont des donneurs. Je l'ai entendu à la crèche dire à un enfant, et toi, il est où ton donneur? Je lui dis, ah non, écoute, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un donneur. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de bien intégré. Je voulais juste vous dire quelque chose de très important. C'est que pour nous, la PMA, en fait, ça fait 50 ans que l'engagement, que le projet parental est valorisé. C'est-à-dire que le jour où mes parents ont eu recours à la PMA, en fait, ils étaient parents avant que l'enfant naisse. Et ça, personne ne pouvait revenir là-dessus. C'était déjà la charte et l'éthique qui était développée dans les SECOS. Et c'est ça qui avait été écrit dans les lois de 1994. C'est que les couples hétéros doivent faire un consentement à la PMA. Et ce consentement à la PMA fait que le jour où vous signez ce papier, vous êtes parents. Et vous ne pouvez pas vous défaire de ce statut auquel vous avez consenti. C'est-à-dire qu'en plein parcours de PMA, si vous voulez quitter votre partenaire, vous êtes quand même déjà le parent, même si l'enfant n'est pas né.
Irène Théry,
oui, soyons précis juridiquement, ouais. Parce que vous faites une confusion, vous la faites d'ailleurs assez souvent, Arthur, en ce moment, entre la conception et la filiation. Donc, en effet, quand un couple recourt à un don, parce qu'il y a bien une distinction entre la PMA en général et la PMA avec don, qui est celle qui fait les débats bioéthiques, il doit consentir à ce don devant un notaire.
Oui.
Et ayant consenti, les médecins, ils ramènent cela aux médecins qui, du coup, vont enclencher le processus. Mais ça n'en fait pas des parents. Donc, ce qui fait qu'ils deviennent des parents en droit, c'est le fait qu'ils passent par une modalité d'établissement de la filiation. Soyons très clairs, il n'y a pas 36 modalités d'établissement de la filiation aujourd'hui. Il n'y en a que deux. Il y a la filiation du titre 7, filiation charnelle, qu'on appelle comme ça, c'est-à-dire qui a comme sens « nous devenons tes parents parce que nous disons ou l'État dit que nous sommes tes géniteurs, ou nous l'affirmons ». Et puis, il y a la filiation adoptive « nous sommes tes parents parce que nous t'avons adopté ». Donc, en 1994, le choix a été fait de passer par la filiation charnelle. Pourquoi ? Pour dissimuler le recours au don. Et d'ailleurs, le consentement qu'on fait devant un notaire est fait dans des conditions de secret. Et donc, si les parents veulent oublier purement et simplement ce consentement, parce que par exemple, ils se séparent, que elle trouverait pas plus mal qu'il disparaisse de sa vie, et lui, il trouverait pas plus mal de plus s'occuper de l'enfant, ils peuvent très bien l'oublier. Donc, la filiation est établie, non pas du tout par l'engagement. La grande nouveauté de la loi, la grande nouveauté qui pourrait vraiment faire de cette loi une loi magnifique, c'est qu'on invente enfin une filiation fondée sur l'engagement. Et c'est l'une des options qu'il y a dans le pré-projet. On n'est pas du tout sûr que ça va être la bonne, que ça va être celle qui va être prise, mais en tout cas, elle y est et ça nous donne beaucoup d'espoir.
Eh bien, Love is the drug, ça pourrait être le commentaire de ce qui vient de se dire, mais non, c'est ce que chantait Roxy Music en 1972. Ça vous plaît, hein, ça, Christophe
Sublime,
Pourseillet.
Ouais. Sublime.
Roxy Music en 1972, Love is the Drug. La programmation est dealée par Jean-Baptiste Audibert.
Rendez-vous.
Je sentais quand même qu'il y avait un malaise, hein. Enfin, parce que le mensonge, de toute façon, il transpire.
Le conseil, en effet, pendant 20 ans, ça a été de dire aux parents, ne le dites pas.
Quand on a eu des doutes avec ma sœur, on a dit à nos parents qu'on allait faire un test ADN. Parce qu'on n'en pouvait plus.
Le nouveau rendez-vous.
J'ai regardé les pays qui étaient ouverts à la PMA pour les femmes célibataires.
Laurent Goumard.
J'ai quand même cherché à réfléchir aux conséquences du fait de faire un enfant sans père. Donc j'ai lu beaucoup de choses. J'ai même été voir un psy sur France Inter. Et puis je me suis dit, j'y vais. J'ai le droit. J'ai le droit.
PMA, procréation médicalement assistée, IAD, insémination artificielle avec donneur, ANP, assistance médicale à la procréation. C'est le débat du Énervé, nouveau rendez-vous ce soir. On en parle avec nos invités, ils sont quatre. Irène Théry, sociologue de la famille, Alexandre Hurwitz, président de l'association des familles homoparentales, Jean-Louis Touraine, député de La République En Marche du Rhône, et Arthur Kermal-Vezen, conçu sous PMA et auteur du livre Le Fils. Vous reprenez la main, c'est ça Christophe Bourseillet?
Oui, parce que
avec Arthur.
Irène Théry, dans une tribune libre que j'ai lue, disait une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Elle disait « En effaçant le donneur, on a discriminé les enfants ». Et c'est vrai que quand on lit votre livre, très beau livre, Arthur Kermal-Vezen, Le Fils, aux éditions L'Iconoclaste, ce qu'on entend, c'est votre souffrance, c'est votre mal-être. Vous parlez du « vous ne savez pas qui vous êtes en réalité ». C'est pour ça que j'ai osé faire une comparaison avec Jean Genet, qui lui, parce qu'il était orphelin, cherchait sa mère. Mais quelque part, en allant à la rencontre de votre donneur, vous voulez savoir qui vous êtes vous-même. Vous découvrez que le père de votre donneur était un résistant, vous découvrez quelque chose peut-être qui vous éclaire sur votre comportement. Est-ce que c'est pas difficile ce que vous avez vécu? Est-ce que c'est pas, parce qu'on le présente de façon un peu idyllique, est-ce que c'est aussi idyllique quand on le vit au quotidien?
Je dirais que c'est un traumatisme positif. Traumatisme parce que c'est quand même assez pitoyable de retrouver ses origines dans ces conditions-là, de manière sauvage, de recourir à une société américaine, de devoir débourser de l'argent pour ça, alors que j'avais des attentes bien plus élevées de mon pays, la France. Et pourtant, Dieu sait que j'ai vraiment cherché à contribuer au débat et à faire avancer les choses. Donc les conditions font que c'était pas très bon. En revanche, le jour où j'ai rencontré mon donneur, je suis passé de 100 000 questions à une dizaine de questions. Et rien que pour ça, ça a quand même énormément libéré l'esprit. Et donc psychiquement, il y a une sérénité quand même qui s'installe. Ensuite, j'ai compris dans le regard de mon donneur le jour où je l'ai rencontré, que c'était ce jour-là qu'il était redevenu donneur. Et que chacun était à sa place. Mes parents sont redevenus des parents qui ont eu recours à une PMA avec un donneur. Et mon donneur est redevenu mon donneur et chacun était justement à sa place. Et c'est ça que je cherchais. Parce que comme j'ai toujours su que j'avais un père, une mère et un donneur...
Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on n'en souffre pas.
C'est pas parce qu'on sait comment on a été conçu qu'on n'en souffre pas.
Ouais.
Mais faut dire que l'aberration, c'est que mes parents m'ont dit comment j'ai été conçu, ouais. Mais je me suis heurté à l'anonymat qui est d'ordre public. Ouais. Parce que ce qui n'est pas dit, quand même, c'est que nous sommes les seuls Français à qui on interdit de rencontrer
exactement
un Français qui est celui qui nous a transmis ses gènes. Alors que, si on est tous d'accord, l'État français dit non. C'est pour ça que c'est d'ordre public. C'est lui qui s'oppose à la rencontre, même si tout le monde est d'accord.
Mais quand je lis votre livre, je vous cite, hein, alors vous l'avez coécrit avec Charlotte Rothman, qui vous met en scène en quelque sorte, et je lis « Arthur devait admettre que son père n'était pas son géniteur, qu'il n'était pas la chair de sa chair ». Il y a une interrogation vis-à-vis de votre père, là, pour le coup, non?
Bien sûr, il fallait faire un deuil, ou du moins renoncer ou accepter la réalité, c'est que mon père... n'est pas mon donneur, n'est pas celui qui m'a transmis son hérédité génétique ou biologique.
Et donc vous ne lui ressemblez pas ?
Eh bien, par certains aspects, si, mais biologiquement non, parce que lui ne s'est jamais pris pour le donneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas tombé dans le piège qui était tendu par la société, peut-être parce que ma mère est psy, et qu'ils ne sont pas tombés dans le déni.
Ils ne vous ont rien caché.
Et c'est vrai que le déni, c'est parfois le début de la folie, il faut se méfier de ça.
Irène Théry et ensuite Alexandre Hurwitz.
Non, je pense que ce que vient de dire Arthur, c'est très important. On se connaît depuis très longtemps et j'ai accompagné au moment de la précédente rénovation des lois de bioéthique. La situation était vraiment dramatique à l'époque. J'ai un souvenir gravé d'un affrontement entre un célèbre biologiste des Secos et Arthur, un débat que j'avais organisé à Marseille où ce biologiste très arrogant lui a dit « Mais vous ne pensez qu'à la génétique, mais alors vous avez qu'à me demander votre ADN, je vous le donne votre ADN », lui dit-il de façon grossière vraiment. Ce qui rappelle la façon dont ces jeunes ont été traités à la précédente rénovation avec un mépris que j'ai rarement vu. Et Arthur, tu lui avais répondu « Mais c'est pas mon ADN qui m'intéresse ». Tu lui avais dit, je cherche un nom, je cherche un visage, je cherche une humanité. Je ne suis pas né d'un matériau interchangeable de reproduction. Parce que ce terme matériau interchangeable de reproduction était justement... Donc, il y a eu des sortes d'illusions, on va dire, scientistes, technicistes, de la part des médecins dans les années 90, de l'idée qu'on pourrait en fait faire de la vie en laboratoire, avec des sortes de gamètes médicaments, sans penser qu'au-delà des gamètes, il y avait des dons, au-delà des dons, il y a des donneurs. Donc, je dirais qu'un des enjeux que Arthur exprime bien, c'est une réhumanisation du don. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va rencontrer son donneur. Peut-être, il y en a qui n'auront pas d'intérêt à savoir quelle est son identité. Il y en a qui n'auront pas d'intérêt à le rencontrer. Il n'y aura peut-être pas de droit à la rencontre. Il faut encore qu'il soit d'accord. Et d'ailleurs, tu avais pris des précautions, tu l'as raconté dans ton livre, pour justement savoir s'il était d'accord.
Si le fameux Gérard était d'accord, en effet, pour la rencontre.
Mais dès lors qu'il y a la possibilité d'un nom et d'un visage, il y a une humanité possible. Et il y avait eu une déshumanisation du don, donc...
Espérons que la loi permette au final une amélioration dans ce domaine-là.
Un vrai droit.
Et Jean-Louis Touraine après.
Oui, alors c'est très intéressant. On est en train de parler d'identité. Voilà, on est tous en train de parler d'identité. Dans votre question, il y avait l'identité. Dans les interventions d'Arthur et d'Irène Théry, il y avait aussi l'identité. L'identité, elle appartient à la personne. Elle n'a pas à être confisquée par l'État. Aujourd'hui, on se bat depuis des années pour mettre fin à cette confiscation. On ne veut plus que cette identité, elle soit confisquée par l'État. Et comment on fait justement pour plus qu'elle soit confisquée ?
Ça, vous parlez du statut des enfants.
Oui, je parle effectivement du statut des enfants. Dans l'association, on a des centaines d'enfants qui sont nés de donneuses et de donneurs. Moi, j'ai deux enfants qui sont nés de donneuses d'ovocytes. On parle de l'identité parce qu'on sait effectivement d'où on vient, qui on est, où on va. Alors, dans le projet de loi, on en revient au sujet, finalement, pour ancrer cette identité, pour qu'elle appartienne vraiment à celui qui est concerné, c'est-à-dire l'enfant qui est conçu par le don, eh bien, c'est pour ça que le projet de loi, dans la déclaration commune anticipée de filiation, permet d'inscrire dans l'acte intégral de naissance, qui serait uniquement, je dis bien uniquement, avec un peu plus de voix mobilisable par l'enfant ou ses parents, et par personne d'autre, eh bien, cette information de déclaration commune anticipée, comme c'est déjà le cas dans l'adoption où il y a le jugement d'adoption, comme c'est déjà le cas dans la possession d'État où il y a la mention de la possession d'État. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je dis que cette information-là, elle appartient à l'enfant, elle n'appartient à personne d'autre. Et que pour qu'elle appartienne à cet enfant, il faut qu'il puisse en avoir l'information. Et finalement, ce système qui est un système universel, qui s'appliquerait pour tous les enfants conçus du don, de parents hétéros, de parents homos, de parents mariés, de parents non mariés, de femmes aussi célibataires qui pourraient signer cette déclaration anticipée, eh bien, c'est le seul système aujourd'hui qui garantisse effectivement l'accès aux origines à ces enfants. C'est dans cette direction, et je pense que Jean-Louis Touraine pourra confirmer, que le projet de loi va être présenté.
Jean-Louis Touraine.
Tout à fait d'accord, et j'ajoute même que l'Europe formule, sous forme de droit, cette possibilité, et qui demain doit être un droit qui peut être sollicité par chaque enfant, conçu dans des conditions de don, d'accéder à des informations sur ses origines. Et ceci a deux justifications. Vous l'avez très bien entendu expliquer, psychologiquement, c'est extrêmement important. Ce qui suppose, premièrement, que l'on dise à tous les enfants conçus à partir d'un don qu'il y a eu recours à cela. Et le plus tôt et le mieux, avant l'adolescence. Parce que c'est accepté, même dans la première enfance, chaque fois que c'est possible. Et ceci, il faut... Évidemment, aider certains parents qui savent pas trouver les mots pour un enfant de 3 ou 4 ans, les aider à formuler ça. Ça n'enlève rien du tout aux parents. Le père, comme le disait Pagnol, c'est celui qui aime. C'est pas celui qui a donné les spermatozoïdes. Le père, c'est celui qui aime, c'est celui qui élève l'enfant. Donc, ceci est très important psychologiquement pour la construction. La construction d'un enfant, puis d'un adolescent et après d'un adulte, ne peut se faire correctement que s'il y a l'information qui est donnée et ensuite l'accès à des conditions qui caractérisent le donneur. Mais la deuxième raison, elle est médicale. Chacun de nous, quand on va chez le médecin, il nous demande quelles sont les maladies présentes dans votre famille. C'est même pas de la génétique, là. parce que certaines des maladies, on ne connaît pas encore aujourd'hui le gène qui va prédisposer à ces maladies.
Oui, tout à fait, oui.
Simplement, vous savez, quand vous êtes femme, que si votre mère et vos deux grands-mères ont eu un cancer du sein, vous devez vous faire dépister très souvent. Si vous avez eu, vous, homme, un cancer du côlon, enfin vos parents ont eu un cancer du côlon, vous vous faites dépister plus souvent. Ce sont des informations objectives importantes. Les enfants conçus avec un donneur, ceux-là sont privés, ou une donneuse, ou une donneuse, sont privés d'informations qui sont de leur intérêt. Donc on est prive d'une chance médicale. Donc il est important qu'il y ait ces informations, et chaque fois que possible, des liens. C'est la raison pour laquelle il faut, dans la dentelle, bien écrire la loi, puis les décrets d'application, pour que il y ait le plus possible d'accès à des informations assez complètes, voire une rencontre, chaque fois que c'est possible. Et ceci est d'autant plus important qu'il ne faut pas générer dans le futur des inégalités qui seraient choquantes entre les enfants qui ont été conçus, pardon. Les uns ayant droit à la totalité des informations, voire à des échanges épistolaires, par mail ou une rencontre, les autres ayant presque rien, deux, trois informations sur un bout de papier où on dit l'âge, le métier ou que sais-je, mais des choses qui ne sont pas informatives véritablement, qui ne sont pas utiles et qui privent ces gens-là de cette information. Or, il est des familles, et Arthur appartient à une telle famille, où plusieurs enfants ont été conçus, pardon, venant de donneurs différents. Alors, si l'un de ses enfants a droit à pouvoir connaître tout sur son géniteur, et son frère ou sa sœur a presque rien, vous imaginez cette injustice ?
À partir de quel âge on vous a donné cette information quant à vos origines ?
On me parlait de mon mode de conception quand j'étais dans le ventre de ma mère. Donc il n'y a pas de découverte.
Vous avez vraiment une mère psy, ça c'est certain. C'est parfait.
Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit le conseil à donner à tous les parents non plus, hein, soit dit en passant. Mais voilà, la normalité qui s'inscrit dans notre histoire, c'est celle-là.
Vous êtes aussi le président de l'association Origine et vous affirmez que vous allez mettre en place une plateforme informatique d'échange anonyme pour permettre quoi ? Quoi que décide le gouvernement, en fait.
Mais si vous voulez, nous, en tout cas, autour de dans ce studio, nous sommes tous favorables au fait que le donneur donne son accord au moment du don pour être identifié si un enfant le demandait plus tard.
À partir de l'âge de 18 ans. Question. Comme en Suède d'ailleurs et comme dans d'autres
comme
pays.
Comme en Suède, comme en Angleterre.
La nouvelle règle doit être que tout donneur qui donne,
il donne son accord au moment du don.
Voilà. Et c'est la règle pour tous les donneurs.
C'est la règle pour tous les donneurs.
Voilà, ça serait, c'est ce que nous souhaitons.
S'il ne veut pas, il ne donne pas.
Il ne sera pas donneur.
Que les choses soient claires.
L'anonymat,
on est tous d'accord.
Comment on choisit le donneur ? Quels sont les critères ? Est-ce qu'on peut, quand on est parent, dire je voudrais un donneur blond et je voudrais un donneur...
Dans mon cas, il y a, Arthur, on a pratiqué un appariement. Donc, il y a eu la même couleur des cheveux, de peau, des yeux et le même groupe sanguin que mon père. Donc l'homme receveur, hein, c'est mon père, voilà, celui qui m'aime et que j'aime. Bien sûr.
Pour faire croire.
Oui, alors, le groupe sanguin, c'est différent.
L'appariement, il est fait comme ça pour que socialement, le père puisse se faire passer à la face du monde pour le géniteur de ses propres enfants.
Pas tellement à la face du monde, parce que votre groupe sanguin, elle n'est pas tellement connue à la face du monde.
J'ai pas fini ma phrase sur le groupe sanguin, mais le groupe sanguin, c'est fait uniquement pour que l'enfant ne découvre pas que son père n'est pas son géniteur.
On a un système qui n'est pas simplement un système de silence, mais de mensonge.
Mais ça veut dire qu'on demande aux médecins de faire autre chose que de la médecine. On leur demande de collaborer, de faire mettre de l'obscurité.
Un mensonge.
Oui, voilà.
On ne peut pas demander un prix Nobel.
À organiser le secret.
Comme donneur.
On ne rien demander.
Irène Théry.
Non, sur la question du choix du donneur, c'est vrai qu'en France, c'est entièrement les médecins. Je crois que le fait de choisir un donneur qui vous ressemble plus ou moins, ça, tout le monde, enfin, personne n'est choqué de ça. Par contre, personnellement, je vois pas pourquoi les parents n'ont absolument rien à dire sur le choix du donneur. Il y a d'autres pays où on a plus d'informations, où on peut participer au choix. Et donc, cette question pourrait être ouverte, je l'espère, dans l'avenir. Sur la question du groupe sanguin, c'est vraiment exact, le pendant, on va dire, médical de la filiation par le titre 7 qu'on emploie aujourd'hui, c'est-à-dire tout est fait pour maquiller le recours au don en procréation du couple receveur, du couple hétéro. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on interdisait aux couples de femmes, c'est-à-dire en disant, en fait, le don, ça n'est jamais qu'un traitement pour permettre à un couple de procréer. comme deux femmes ne peuvent pas procréer ensemble, eh bien, elles ne peuvent pas avoir recours au don. Alors que, évidemment, la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que un don, c'est un couple où l'un procrée, l'autre pas, qui fait mettre un enfant au monde avec l'aide d'une tierce personne. Et ça, les lesbiennes et les femmes seules ont tout à fait facilement compris que ça pouvait tout à fait aussi bien les concerner que des couples hétérosexuels.
Alexander Witt, justement, pour compléter ce que dit Irène Théry, les familles homoparentales, j'allais dire, nous, depuis la lettre A, on vit avec nos enfants qui sont conçus par don. C'est-à-dire qu'il est inimaginable pour nos enfants ou même pour les personnes qui nous croisent dans la rue lorsqu'elles voient deux mamans avec deux gamins ou deux papas, de se dire, tiens, ils sont forcément nés par don. Mais c'est pas la première chose qui vient à l'esprit. Hein. C'est pas, tiens, cet enfant, il est né par don. C'est, tiens, c'est une famille homoparentale. Et donc, nous, on a vécu avec ça, avec nos enfants. Et nos enfants, ils apprennent, et d'ailleurs, Arthur le disait aussi tout à l'heure en parlant des siens, ils apprennent très vite, et d'autant plus, j'allais dire, dans les familles homoparentales, qu'ils n'ont pas été conçus par deux mamans ou conçus par deux papas. Et pour ça, on a souvent des livres de naissance avec la photo. Alors, dans le cas des dons qui ont été faits à l'étranger, on a la photo de la donneuse, parfois on a une petite vidéo, parfois on l'a rencontrée, on peut avoir un témoignage, on peut avoir une lettre, on a en tout cas généralement l'accès à son adresse, on peut éventuellement la contacter si elle est disponible et si elle le veut bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on associe dès le plus jeune âge nos enfants au fait qu'ils ont été conçus par un tiers donneur. Alors dans le cas des GPA, ça va même un peu plus loin, puisqu'il y a la gestatrice qui peut intervenir. Donc on dissocie le biologique, j'allais dire aussi par rapport à la femme qui va porter l'enfant, et puis ensuite par rapport aux parents qui vont l'élever. Mais encore une fois, il s'approprie sur une réalité, et surtout sur une vérité. Et donc nous, la question de la vérité et du mensonge, elle ne se pose jamais. Là où elle peut se poser pour les familles hétérosexuelles, pour les familles homoparentales, elles ne se posent jamais. Et à aucun moment, une famille homoparentale vous dira « Ah ben moi, on a stigmatisé mon fils parce qu'il était né par don, parce qu'il y a eu un don d'ovocytes. » Ça n'existe pas.
Arthur,
c'est vrai que la question du groupe sanguin, l'idée à la base, historiquement, c'était de laisser le choix aux parents de le dire ou de ne pas le dire. Mais ça correspond aux années 70, aux années 80. Enfin, on a complètement changé de monde, mais on n'a pas changé la loi. Donc il y a un moment, il va falloir réactualiser tout ça. C'est pour nous, générée grâce à la PMA, c'est totalement has-been. Surtout que faire croire aux parents qu'ils ont le choix de le dire ou de ne pas le dire, avec les tests ADN, c'est fini. Aujourd'hui, un test ADN, ça coûte 50 balles. Donc pour 50 euros, vous allez voir votre cousin, vous lui commandez aussi un test, vous voyez tout de suite si vous n'avez pas de match, c'est qu'il y en a un des deux qui n'est pas le fruit de son père.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. À moins que vous n'ayez repéré le vôtre.
Oui, j'en ai un. Depuis les années, dans une phrase d'Arthur Kermalvezen, depuis les années 70 et 80, on a complètement changé le monde, mais on n'a pas changé la loi.
Merci à vous tous et merci à vous toutes. Arthur Kermalvezen, je rappelle que le témoignage Le Fils apparu aux éditions de l'Iconoclaste. Et je transmettrai votre bonjour à Alexandra Dubucheron, une amie d'enfance, on vient de l'apprendre. Irène Théry, mariage et filiation pour tous, une métamorphose inachevée, c'est au seuil. Alexandre Urvix. Je le dis mal, là, encore.
Très bien,
hein. C'était parfait.
Non, c'est génial, là, Laurent.
Je renvoie vers le site de l'association des familles homoparentales, adfh.net. Et enfin, Jean-Louis Turenne, donner la vie, choisir sa mort pour une bioéthique de la liberté, ça devrait paraître en août. Vous confirmez?
Oui.
Parfait.
En jouer, en jouer, en jouer.
Je n'ai pas prévu de rater plus. Ça, je peux bien m'en empêcher. HIP m'a chopé. Je me suis mis à rapper. HIP m'a chopé. Je me suis remis à choper.
Ça semble pour ce dernier énervé de la saison avec Jodoa et le lieutenant Nicholson, car oui, vous l'avez compris, le énervé c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine et pour cette saison, mais pas de panique, on revient le 26 août prochain, on est en train de penser à la programmation. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un bel été, toute l'équipe sauf vous, Christophe Bourseiller, car vous allez rester.
Oui, je reste, mais j'ai hâte de vous retrouver, Laurent. Du coup, je pensais qu'on allait partir en vacances tous ensemble.
Pas du tout, parce que vous avez une émission.
Oui, alors je serai dès 9h, dès lundi à 9h, en direct sur France Inter, pour une émission d'été.
Que vous avez intitulée comment ?
Estivalitude.
Je ne vois même pas ce que ça veut dire.
Non, mais moi non plus, mais c'est pas grave, c'est une recherche, c'est une quête spirituelle. Il y a un côté inquiétude, altitude, bravitude, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, c'est deux invités qui vont se rencontrer parce que c'est l'été, qui vont même un peu se mêler. Vous voyez, ça va être une sorte de méli-mélo.
C'est une sorte de nouveau rendez-vous.
Un peu, oui. Bah, je vous ai un peu plagié, mais j'ai essayé d'apporter ma touche. Enfin, je fais ce que j'ai pu. En tout cas, je peux déjà vous dire que lundi, il y aura Boris Cyrulnik qui va se méli-mêler donc avec Zabou Breitman.
Vous avez déjà la programmation des autres ? Vous êtes
oui,
en train
je
de...
l'ai, mais bon, j'ai oublié. Déjà, vous voulez la suite ?
Allez-y, donnez le mardi.
Écoutez, le mardi, il y aura Arnaud Robotini qui va rencontrer Olivier Assayas. Mercredi, il y aura Guillaume Musso qui va rencontrer la danseuse Marie-Agnès Gillot.
Eh bien, c'est parfait.
Vous voulez qu'on va jusqu'à fin août ?
Ça va aller comme ça. Le NRV, le vrai, est signé Marion Lelay et Adèle Cailloteau pour la réalisation. Bien sûr, je n'oublie pas Juliette Medevielle qui travaille actuellement sur votre émission, Christophe Bourseiller. L'émission Tout Toute cette année a été préparée par Virginie Rouzic, Corinne Valente, Benoît Lagan et Laure Grand-Besançon. Mention spéciale à Gaëtan Lévy pour son stage qu'il va fêter ce soir en allant voir Spermula au cinéma. Eh oui.
Ça paraît logique. Temps,
merci Gaëtan, c'était vraiment un plaisir de te retrouver tous les jours, digne, malin, curieux. Tu fais honneur à ta génération. Un mot aussi pour Louisa Dumont qui aura été la reine de la promo. À la technique ce soir, Gilles Gaillard et Loïc Frapsos.
Demain je pars.
Ah oui, là, je crois que tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir, le bon week-end. Et comme dit Sheila, ne nous oubliez pas, bonnes vacances. On se retrouve toutes et tous le 26 août, reposés bien sûr, mais énervés surtout.